Chapitre 6. Le greffier Jabiou découvre un écho à longue portée et bien d'autres étranges choses. C'est étonnant, monsieur le bourgmestre, vraiment étonnant, disait un jour le greffier Jabiou, comme les échevins sortaient d'une séance où l'on avait discuté pendant 3 heures à propos des agissements condamnables de quelques mauvais plaisants qui s'amusait depuis plusieurs nuits à enfermer des chats dans les réverbères de la place de l'Hôtel de Ville et à changer les enseignes. « Et quoi donc ?» fit M. le bourgmestre. « Ben voilà, une observation très curieuse que je voudrais porter à la connaissance de l'Académie des sciences. J'ai écrit un mémoire là-dessus, une observation faite de cet Hôtel de Ville même, de mon greffe, M. le bourgmestre, de mon greffe. Au fait, Jabiou, au fait. Eh bien voilà, parfois, les fenêtres du greffe ouvertes, j'entends les coqs et les canards des faubourgs comme si j'étais là-bas, au milieu de me trouver à mon bureau dans l'hôtel de ville. Je les entends distinctement, ce sont des cocoricots, des coins-coins, et à tout instant. Je distingue même l'organe des oies, très nettement, monsieur le bourgmestre, très nettement, absolument comme je vous entends lorsque vous me faites l'honneur de m'adresser la parole. De si loin ? Oui, j'en atteste, madame Jabiou, et aussi mon employé. Ce qu'il y a de plus curieux, c'est ceci. Premièrement, ces bruits de basse-cour, j'en ai fait l'expérience, ne se perçoivent nullement quand on se trouve en bas de notre monument municipal, orgueil de notre cité. Deuxièmement, le côté d'où souffle le vent n'influe pas du tout sur la netteté de ces bruits. Que le vent souffle de l'est, de l'ouest, du sud ou du nord, on les entend tout aussi bien. J'en conclus à un écho d'un genre particulier et des plus rares, un écho à longue portée, qui ne fonctionne pas pour les soins rapprochés, qui ne se reproduit que les bruits lointains. Oui, c'est bizarre, en effet, dit le bourgmestre qui voulait s'en aller. Mais si c'était tout, depuis quelques jours, ce sont des chèvres que j'entends et des bêlements de moutons. Des bêlements ? Oui, parfaitement, ce sont des du matin au soir. Monsieur Jabiou, dit le bourgmestre, saisissant le greffier par un bouton de sa redingote, ne serait-ce pas une farce de votre employé ? Ce gaillard pourrait bien être ventriloque et s'amuser à vos dépens. Monsieur Jabiou resta un instant saisi. Sa perlotte et mon mémoire à l'académie qui est presque achevé. Si je croyais cela, je mettrais tout de suite mon employé à la porte. Mais soyez tranquille, monsieur le bourgmestre, je vais le surveiller attentivement. À peu près vers le même moment, la grande horloge de l'hôtel de ville fut quelques jours en proie à un malaise visible. Elle se départit tout à coup de sa vieille régularité, elle qui n'avait jamais bronché depuis des siècles, et se mit à marquer les heures tout de travers. Elle s'arrêtait une demi-heure, puis repartait toute seule pour s'arrêter de nouveau, sans aucune raison apparente. Les tambourineurs du beffroi s'embrouillèrent et sonnèrent des heures quelconques. Garde-bec reçut de vifs reproches. Comme il n'était pas en faute et remontait régulièrement le mécanisme, il établit son irresponsabilité. Sur l'injonction des autorités, il eut à s'occuper de graisser fortement les rouages. Mais un grand nettoyage à fond ne fit aucun effet. La vieille horloge continua quand même à abattre la breloque. Tous les rouages, cependant, fonctionnaient admirablement, mais elle s'arrêtait sans motif et repartait de même. « Sapristi, dit le bourgmestre aux échevins, j'ai peur qu'il nous faille faire venir quelqu'un de Bruxelles pour, puisque le zèle et tous les soins de Burdebeck n'y font rien. » Burdebeck neveu ne tenait nullement à voir venir quelqu'un de Bruxelles. Il ne tenait pas à laisser arriver sur sa plateforme un intrus que ces transformations et embellissements choqueraient peut-être et qui en bavarderaient au conseil. Monsieur le bourgmestre, homme d'âge et légèrement obèse, ne songerait jamais à monter au beffroi. De ce côté, aucun danger. Mais il y avait deux échevins, maigres et alertes, assez inquiétants. Aussi le Zélégure de Bec se préoccupait-il vivement des fantaisies de l'horloge détraquée, et négligeant ses tomates, ses laitues, oubliant l'arrosage, le surveillait-il d'un air inquiet, allant même jusqu'à se relever la nuit pour voir s'il n'était pas retombé dans ses coupables égarements. Un après-midi, qu'il n'avait pas quitté la chambre où tournaient les énormes rouages, occupé à graisser et à huiler, mettant même la main au mécanisme pour aider à faire passer régulièrement les dents, il eut le mot de l'énigme. Madame Gurdebec l'entendit pousser un cri et le vit reparaître l'air ému mais triomphant, tenant un lapin par les oreilles. Je savais bien, s'écria-t-il, je savais bien qu'ils n'étaient pas perdus, les deux lapins que cette petite bête de Lot a laissé échapper il y a 15 jours. Les avons-nous assez cherchés, les scélérats? Bon, d'abord, je les avais cru manger par quelque chat au fond des greniers, mais quand j'ai vu qu'ils venaient chaque nuit goûter à mes choux, j'ai bien compris qu'ils devaient être nichés quelque part. Allez, voilà donc, dit Madame Burdebec. Les scélérats, oh, ils en faisaient de belles. Tu sais bien, Madame Gurdebec, l'horloge, la bonne vieille horloge, qui ne se détraquait jamais autrefois, et qui s'est mise tout à coup à battre la breloque, eh bien, ça a été eux, les brigands, qui me la démontaient. Qui diable aurait pu s'en douter? Quelle infernale malice de vous faire des farces pareilles! J'avais beau graisser, parbleu, bah, il s'introduisait dans le mécanisme et arrêtait tout. Ah, oh, voilà une aventure. Que dirait monsieur le bourgmestre s'il apprenait ça? Allez vite, remets-moi ce gaillard-là dans sa cabane. Il faut que j'attrape l'autre. Ne le laisse pas s'échapper. Madame Gurdebec saisit le lapin avec précaution et lui fait réintégrer son domicile au pied des tambourineurs, pendant que le guetteur descendait dans sa chambre de l'horloge. Il y resta bien une bonne heure, sans répondre aux appels de Madame Gurdebec, puis enfin on revit sa bonne figure en haut de l'escalier. Cette fois, il n'avait pas l'air triomphant. Il semblait au contraire tout penaud. Qu'est-ce qu'il y a? Demanda sa femme avec inquiétude. T'as pas l'autre lapin? Si, répondit lentement Gurdebec. Et où est-il? Le voilà, fit-il d'un air hésitant en montrant un objet bizarre à sa femme. C'est que ça? Oui, le monstre ne voulait pas se laisser reprendre. Il se voyait cerné, et alors il se tairait. Alors il a fini par choir dans les rouages, il a été pris par les dents et aplati. L'horloge s'arrêtait, j'ai perdu la tête et poussé à la roue. Oh! Oui, brrr, ça m'a fait sauter le cœur. Oh, tout est fini, voilà sa peau. Il tendit à Madame Gurdebec l'objet sanguinolent qu'il tenait à la main, les restes lamentables de l'infortuné lapin. Une jolie aventure, reprit Gurdebec d'un air piteux. Oui, mais l'horloge ne s'arrêtera plus. C'est un souci de moins, dit Madame Gurdebec pour consoler son mari. Nous allons être tranquilles. Les habitants de Flissemugue eurent bientôt rendu leur entière confiance à la vieille horloge qui marchait très bien, et l'on ne parla plus de faire venir aucun spécialiste de Bruxelles. Cependant, monsieur Jabiou continuait à se préoccuper des inexplicables bêlements, des gloussements tombant du ciel et répétés par les échos de l'hôtel de ville. Il notait au jour le jour ses observations et polissait le mémoire qui devait porter la connaissance des savants sa découverte d'un écho à longue portée. À la fin d'une belle journée d'été, comme le greffier ne revenait de prendre l'air sur les bords de la Flisse, en promenant ses méditations sur les phénomènes bizarres de l'hôtel de ville, il tomba sur la place au milieu de groupes campés le nez en l'air devant le monument municipal. Des groupes à Flisse mugueux, oh, cela ne s'était pas vu depuis longtemps, depuis le temps des luttes nationales contre le duc d'Albe et les Espagnols. Monsieur Jabiou leva la tête comme les autres. Qu'est-ce qu'il y a donc? Demanda-t-il effaré. Une chèvre, monsieur le greffier. Une chèvre. Où ça? Sur les toits de l'hôtel de ville. Sur les. Monsieur Jaillot ne put continuer, l'émotion l'étranglait. Oui, là, tenez. Sur les toits dorés par le soleil, monsieur Jabiou aperçut vaguement quelque chose de blanc qui remuait, mais ne put distinguer ce que c'était. L'émotion brouillait aussi ses lunettes. Oh, elle n'y est plus. Disparue. Non, non, elle est tombée. Non, oh, elle a sauté de l'autre côté. Là-bas, là-bas, sur la lucarne. Je ne vois toujours rien. Si, là-bas, à droite, tout en haut de la crête, maintenant. Ah! Voilà un homme qui monte pour l'attraper. C'est le guetteur, Ségur de Bec-Neveu. Mais comment une chèvre peut-elle se trouver là-haut? Ben, ce que je sais, moi, elle y est, dans tous les cas. Tenez, voyez Gur de Bec qui grimpe. Il la tient, non? Ils n'y sont plus. Oh, ils sont de l'autre côté. Monsieur Jabiou frémit intérieurement. Une chèvre là-haut, mais alors, l'écho, le phénomène. Et son mémoire terminé maintenant, presque entièrement recopié et prêt à être envoyé. Oh, il y avait bien de quoi frémir. Après avoir continué à regarder quelques instants en l'air sans rien voir, le greffier se dirigea en toute hâte vers la porte du beffroi, mais au lieu de prendre le large escalier du greffe, il s'élança dans l'étroite vis conduisant au logis du guetteur. L'ascension était dure, mais il importait. Il s'agissait de tirer l'affaire au clair. Lorsque monsieur Jabiou, essoufflé, arriva tout en haut de la vis à peine éclairée par d'étroites meurtrières, il se cogna le nez dans une porte fermée. Vainement il appela, vainement il tambourina du poing et du pied dans cette porte, personne ne répondit. La porte était massive et la serrure formidable. Il était inutile d'essayer de pénétrer de force sur la plateforme du guetteur. Les Gur de Bec, père, mère et enfant, ne soufflaient mot. On n'entendait aucun bruit sur la plateforme. Monsieur Jabiou, las de s'écorcher les mains aux énormes clous de la porte, redescendit furieux. Oh, ce Gur de Bec me le paiera! Je lui montrerai si un simple guetteur doit se moquer ainsi d'un greffier. Mais où était-il? Sur les toits, à la poursuite de cette chèvre. Si réellement c'est une chèvre, si les gens d'en bas n'ont pas eu la berlue. Le greffier ressortit sur la place, mais pendant son abstention, les groupes s'étaient évaporés et il ne restait presque personne sur la place, retombé dans son calme habituel. C'est un peu fort, tout de même, grommela monsieur Jabiou, se décidant à remonter dans le beffroi par le grand escalier cette fois, et à rentrer chez lui à l'étage situé juste au-dessous de la plateforme. Il s'endormit difficilement ce soir-là, après avoir raconté l'aventure de la chèvre à madame Jabiou, qui d'ailleurs n'était par sa fenêtre rendu compte de l'émotion populaire. C'est assez bizarre tout de même. Il y avait bien du mystère dans le vieux beffroi depuis quelque temps. Les bruits étranges, les lubies de l'horloge, et maintenant cette chèvre sur le toit. Sans compter de temps en temps dans le silence de la nuit, d'autres bruits dans la muraille, quelque chose comme de rapides glou-glou parfois. Et l'humidité qui se manifestait dans le greffe, toujours si sec autrefois, dans le greffe. Tandis que la grande salle municipale en dessous et l'appartement du greffier au-dessus restaient parfaitement secs. C'était incompréhensible. Les cartons du greffe moisissaient cependant, et cela sentait le champignon dans certains coins. Jamais auparavant on n'avait eu à constater la moindre humidité dans les murs. Monsieur Jabillou, méditant sur toutes ces choses et se promettant d'essayer de tirer l'affaire au clair le lendemain, finit par s'endormir. Il était en train de rêver à son mémoire sur les échos mystérieux du beffroi, mêlés à des apparitions de Belzébuth sous la forme d'une chèvre extraordinairement barbue et cornue, lorsqu'il fut tout à coup tiré de ce songe embrouillé par une sensation bizarre. De larges gouttes d'eau lui tombaient sur le nez avec lenteur et régularité, s'éclaboussant ensuite sur sa figure et sur son oreiller. D'abord, la sensation se confondit pour lui avec le rêve. Il ne se crut pas bien réveillé, mais à la longue, la petite secousse que chaque goutte lui donnait et la fraîcheur produite le tirèrent tout à fait du sommeil. Bien, il pleut, dit-il, et je n'ai pas de para. Mais je suis dans mon lit, je suis couché. Saperlotte, je ne rêve pas, il pleut pour de bon, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Très surpris, il allait se lever et allumer une chandelle, lorsque, avec les gouttes d'eau, il tomba quelques légers plâtras, puis soudain, comme si quelque chose se débouchait, un large filet d'eau froide lui tomba sur le crâne et lui enleva son bonnet de coton. Monsieur Jabiou, d'un bond, sauta à bas du lit et passa fébrilement quelques vêtements. Madame Jabiou, effarée, se leva aussi en poussant à travers ses papillotes des gloussements d'effroi. Monsieur Jabiou, tremblant, alluma une chandelle et la leva en l'air pour voir d'où provenait l'inondation. La chandelle reçut la douche et s'éteignit subitement. Madame Jabiou poussa de nouveaux cris et se cogna dans les meubles en se sauvant, pendant que Monsieur Jabiou essayait de refaire de la lumière. Enfin, quand il y fut parvenu, et qu'avec précaution il chercha de nouveau à découvrir la cause de l'inondation, l'eau avait cessé de couler. Il ne tombait plus rien du ciel de lit, mais il suffisait de regarder les oreillers et la descente de lit pour voir que le pauvre greffier n'avait pas eu la berlue, comme déjà Madame Jabiou, revenue de sa terreur, l'insinuait. Le greffier leva lamentablement les bras en l'air. Quelle désagréable et incompréhensible aventure! Les oreillers trempés paraissaient sortir d'un bain. Et sous le lit s'étendait une longue mare dans laquelle les pantoufles de Madame Jaïvou avaient l'air de naviguer. En montant sur le lit, le greffier put découvrir dans le plafond un petit trou encore humide. L'eau avait passé par là, mais d'où provenait-elle? Qu'est-ce que ça veut dire? Songea Monsieur Jabiou, se promenant avec sa chandelle autour de la chambre. Madame Jabiou ne dit mot. Elle regardait, atterrée, le désastre de son lit. Est-ce qu'il pleut? Fit Monsieur Jabiou, allant ouvrir la fenêtre. Mais non, il fait beau, un clair de lune superbe. Oh, pas d'explication possible, mais c'est encore un mystère. Et tout ça seulement depuis que Gourdevêque, neveu et guetteur. Car nous n'avions jamais rien remarqué avant son installation dans le beffroi. Mais te rappelles-tu, monsieur Jabiou, que nous lui avons vu monter beaucoup de pots de fleurs, dit madame Jabiou. Cet homme doit avoir la passion des fleurs, et alors il arrose. Mais avec quoi? Il se fait hisser 2 seaux d'eau tous les matins. C'est à peine suffisant pour se débarbouiller ou pour la soupe. Néanmoins, c'est étrange. Les cartons du greffe qui moisissent, cette inondation de notre chambre aujourd'hui, tout cela, ajouté aux autres mystères, demande une enquête, madame Jabiou, une sévère enquête. Ou bien ce effroi est ensorcelé, murmura madame Jabiou, qui n'osait plus bouger ni lever les yeux.